Bien, la lumière.
Donne-moi un numéro entre 1 et 22.
D'accord.
Ouais, mais t'étais
pas là.
Ah, t'étais pas là. Quand je dépasse
pas
ça
va. Ah,
tu me lâches.
Bah, moi je suis au tarot.
Le 1. Ouais, bah voilà.
Et la belle équipe. Et j'aime bien l'équipe.
C'est sympa là-bas.
Tu veux combien de temps?
Surtout que là, les joueurs
20 minutes. Ok.
Le bar est très agréable.
Et ça dépend du trait.
Ça dépend des joueurs.
Tu connais bien, moi je vais manger là-bas.
Non, bah c'est lui. On va faire deux parties.
Ah, ouais, j'aime bien.
Tu veux manger le midi souvent.
C'est parfait. Nous sommes le 16 mars 2019, bienvenue dans Commentaires d'après-jeu, le podcast qui vous éveille à la critique ludique, où un groupe de joueurs différents à chaque épisode donne ses réactions à chaud, juste après une partie de jeu de société. Le jeu de ce soir est Q-Birds. Q-Birds, c'est un jeu de cartes de Stefan Alexander, édité par Ketchup Games en 2018. Il se joue de 2 à 5 joueurs, il faut avoir 8 ans minimum pour y jouer. Une partie est donnée pour 20 minutes, mais nous on les a faites en 45 minutes, et le jeu coûte 13 euros. Donc, ce soir autour de la table, nous sommes 5. Il y a moi, donc Philippe, alias Crazy Smiler. J'ai 37 ans, je suis un joueur bien expérimenté. Vous m'avez déjà entendu dans tous les précédents numéros, puisque c'est mon podcast. Et j'ai les cheveux, je me suis rasé les cheveux hier, ils mesurent 2 mm. À ma gauche, il y a Flavien.
Bonsoir. Moi, c'est Flavien, 33 ans, bonne expérience de jeu ici et maintenant, avec le dernier podcast fait avec Philippe de Faits divers et Petits meurtres, Petits meurtres et Faits divers, voilà. Et je suis avec des cheveux courts classiques. Et à ma gauche, Christelle.
Bonsoir, Christelle, 39 ans. Joueuse régulière, on m'a entendu dans le Uno, dans le Shabada, dans le Déclic, dans le Petit Meurtre et Faits divers, dans le Nosferatu. J'ai les cheveux mi-longs. À ma gauche, Maroussia.
Bonsoir, Maroussia, 29 ans. Je suis joueuse assez régulière en jeu de société. Vous m'avez déjà entendu dans le Déclic, dans le Nosferatu et dans d'autres. Et j'ai les cheveux mi-longs aussi. À ma gauche, on a... J'ai oublié son prénom.
Sébastien, 40 ans. Donc, joueur expérimenté. Donc, moi, c'est ma première participation à ces podcasts. Voilà. Et j'ai les cheveux mi-longs. Courts. Pardon.
Au secours. C'est les filles qui ont les cheveux mi-longs voilà, autour de la table. Ok, donc, pour participer au prochain enregistrement, si ça vous intéresse, il vous suffit tout simplement de vous inscrire sur le site On va sortir de Nantes, OVS Nantes. Vous venez donc à la soirée, c'est souvent le samedi soir, mais ça peut être le vendredi soir. Vous apportez vos jeux. Dans tous les jeux qui ont été apportés, on tire le jeu au hasard. J'insiste bien, on tire le jeu au hasard. Ensuite, on joue au jeu, puis on enregistre le podcast. Donc là, ce soir, on a joué à Q-Birds. C'est Sébastien qui avait apporté le jeu et c'est lui qui s'est proposé de résumer les règles rapidement. Donc Sébastien, on t'écoute.
Donc très rapidement, le principe du jeu donc, va être d'échanger des cartes avec un donne central pour pouvoir réaliser des collections d'oiseaux. Et donc bon, le vainqueur est celui qui aura la plus belle collection d'oiseaux.
Très bon résumé Sébastien. Est-ce que tu as rapidement peux nous dire si tu as bien aimé ce jeu ou pas?
Étant donné que c'est moi qui l'ai rapporté, c'est quand même un jeu que j'apprécie.
Ok, Maroussia, est-ce que tu as bien aimé ce jeu toi aussi ou pas?
Alors, moi, j'ai bien aimé, oui. Pardon.
Oui, c'était la première fois que tu jouais?
Oui, découverte pour moi. J'ai bien aimé, après, on développera tout à l'heure.
Mm-hmm. Christelle?
Oui, une belle découverte, plutôt chouette à jouer. Voilà, qui serait même à jouer par les enfants, donc chouette.
Donc, première fois que je joue à ce jeu, et c'est une découverte très agréable.
Ouais, bah moi, Philippe, je passais un bon moment, mais je pense que c'est vraiment pas le jeu de l'année, et je pense en fait que ouais, on peut faire beaucoup mieux dans le style de jeu. Donc maintenant, on va passer aux commentaires autour de l'apprentissage des règles. Est-ce que vous avez eu des difficultés à comprendre les règles, ou ça allait?
Moi, j'ai trouvé que les règles étaient assez simples. Après, il y a juste la notion d'espèces et de minimum, maximum à comprendre, mais une fois qu'on a compris ça, ça va tout seul.
Moi, je trouve que les règles ont été donc très bien expliquées par Sébastien et que les règles sont très, très rapides à expliquer par rapport à la difficulté du jeu. Je trouve que ça, c'est une très bonne cohérence dedans. Il n'y a pas grand-chose à changer non plus sur les règles, à mon avis.
Oui, l'avantage, c'est que c'est des règles assez simples donc pour un jeu familial. Parce que c'est le type de jeu, c'est vrai que ça... Normalement, on fait un ou deux tours de table et les gens ont compris comment ça se passe.
Ouais, tout à fait. Concernant les mécaniques de jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bah, assez simple. Soit on pose des cartes, soit on... Non, on pose une carte, quoi qu'il arrive, ou plusieurs cartes. Toutes les mêmes espèces, on les pose en même temps, donc c'est assez simple. Puisque, bah, tu sais, t'en poses une ou trois ou quatre, ou voilà. Après, tu tires ou pas des cartes suivant ce que tu fais, donc ça reste simple.
Ouais, c'est une mécanique très simple et c'est ça qui est efficace à mon avis.
C'est ce qui fait aussi que les règles sont assez simples puisque les mécaniques sont simples.
Ouais. Par contre, on va maintenant passer au niveau stratégie. Justement, grâce à ces mécaniques très simples, en fait, moi, ma stratégie, c'était plus d'essayer, et j'ai très mal réussi à mettre en œuvre ma stratégie, c'était d'empêcher les autres de gagner. Parce que je voyais que j'étais très mal en point. Et
t'as fait ça?
J'ai essayé de le faire. Une fois, j'ai dit, regardez, je fais exprès pour que Flavien ne finisse pas. Ah. Et les deux parties, je lui ai donné ses cartes. Effectivement. Il a pris les lignes que j'avais complétées. Mais l'idée était bonne, je pense.
Peut-être l'idée, mais dans les faits, t'as fait le contraire de voulais faire. Parce que deux fois, t'as posé ce qui lui manquait. Et du coup, derrière, il avait juste à servir, à te poser deux boulevards, en fait.
Sachant qu'il y a des cartes ou des collections où il faut que deux cartes et d'autres, il en faut cinq ou six ou sept.
Oui. Et tu lui as donné les cartes où il en faut que
deux. Donc forcément, deux, il va les prendre, ça lui fait cadeau tout de suite. Donc,
après, de toute façon, c'est un jeu où tout le monde se rapproche un peu de la victoire en même temps. Et donc, il y avait un moment où... Il y a toujours deux, trois joueurs.
On a fait deux parties... la première partie, franchement, moi personnellement, la première partie, je suis assez vite grimpée et j'étais même pas loin de la gagner. Et la deuxième, je suis restée très longtemps bloquée avec une seule espèce. Il en faut 7 hein, pour gagner. Et en fait, la deuxième, j'ai beaucoup galéré, donc j'ai trouvé que c'était un peu plus chiant du coup. Mais sinon c'est plutôt agréable, mais... C'est vrai, du coup, quand tu galères...
Mais il y a plusieurs façons de relancer la partie. Déjà, le fait, après, effectivement, la possibilité de gagner de deux façons différentes, soit en ayant les 7 espèces différentes, soit en ayant deux fois trois oiseaux. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut relancer justement la partie. Quand on n'a plus les deux cartes dans la main, ça permet de lâcher le jeu et de redistribuer tout. Donc ça redonne une dynamique, alors que bien souvent dans des jeux de cartes, une fois qu'on a un jeu distribué, on le garde jusqu'au bout et on doit faire avec le jeu qu'on a. Là, effectivement, le fait de relancer la partie, on peut se retrouver d'un seul coup avec un super jeu et pouvoir avancer, ou pas du tout, comme Marussia à un moment qui a retrouvé des cartes.
Oui, parce que moi, à chaque fois, tu étais à peu près bien dans mes mains, il y avait quelqu'un qui finissait ses mains. Je ne donnerai pas de nom. Et du coup, à chaque fois, je repartais avec des mains de merde.
Donc, moi, pour le côté stratégie, effectivement, c'est un jeu où c'est une stratégie de cartes, donc c'est simple. Mais le côté, en fait, moi, j'ai trouvé là où j'ai fait une stratégie qui a bien marché aussi, c'est le côté, en fait, de se vider la main et hop, on redistribue tout avec une espèce entière d'oiseaux, hop, ou une, deux ou trois cartes. On met tous de la même espèce, la même famille, et hop, on redistribue tous une nouvelle main pour tout le monde. Et celui qui a fait le côté vide-main, il recommence un nouveau tour en pensant par lui. Donc ce qui fait, c'est très agréable parce que, hop, je peux recommencer en premier.
Ça permet en plus de jouer deux fois
de suite. Ça, c'est une stratégie intéressante quand tu commences à faire tes espèces. Ça, c'est très intéressant quand il n'y a plus beaucoup de cartes, hop, ou de faire une espèce, hop, entière, même en défaussant. Ça, c'est très intéressant comme stratégie. Et ça a bien marché justement. Et pas contre les autres, mais pensez vraiment à faire les espèces pour nous. Justement. Et ça aide beaucoup.
Il faut quand même arriver à vider sa main, ce qui n'est pas forcément évident. Quand t'as 5 espèces différentes dans les mains, ça fait 5 tours. Donc c'est
oui.
Bon, 5 tours.
Par contre, il y a l'avantage de pêcher 2 cartes dans la pioche.
Ouais, mais.
Entre 0 ou 2 cartes.
C'est toujours pareil, quand t'as 5 ou 6 espèces différentes dans les mains ou t'as une carte de chaque, sachant qu'il en faut 2, 3, voire 6 pour poser un truc, c'est pas évident. Tu peux galérer. Après, je dis pas que...
Ah oui, non, bien sûr.
Galère, hein, mais, j'ai bien aimé le jeu, franchement. Mais tu peux galérer comme tu peux ne pas galérer.
Alors, Moi, je pense que ta stratégie, elle est très bonne, Flavien, mais le problème, c'est que là, on était 5, et donc forcément, on a une chance sur 5 de réussir à être le premier à se défausser de ses mains, de toute sa main, et de finir la manche.
En fait, là où tu avais de la chance, c'est que tu jouais après Philippe. Donc Philippe, il te mettait pour finir. Parce que moi, j'arrivais, et ben, ces lignes-là que Philippe t'avait laissées, tu me les fauchais, je ne pouvais plus les prendre.
Et toi, tu fauchais les gains juste avant aussi, alors...
Faut quand même remettre en perspective, hein. Ça reste un jeu familial cartes, après, donc voilà, il y a du hasard, il y a du...
Ah, il y a une partie hasard, et
ça,
voilà.
Ça reste un jeu sympa quand même, hein.
Alors c'est justement tout ce que je reproche à ce jeu, c'est qu'en fait je n'ai pas pu élaborer de stratégie. Parce qu'entre, là surtout on était, je pense que plus on est nombreux, moins on peut élaborer de stratégie.
Quand t'arrives sans tour, le plateau a tellement changé.
Voilà, entre deux tours, le plateau a beaucoup trop changé. Et c'est vraiment tout ce que je reproche à ce jeu, c'est qu'on peut rien faire du tout.
Justement, les stratégies peut-être que tu peux faire, c'est de vider ton jeu et toi de reprendre la main et en étant le maître comme a fait Flavien.
Non, parce que justement, même il y a des fois où j'ai voulu vider ma main pour redevenir maître, pour reprendre la main, et je n'ai pas réussi à le faire rapidement parce que j'avais trop d'espèces différentes.
C'est ce que je disais il y a 30 secondes.
Tout à fait.
Non, c'est... Après, sinon, bah, ça joue sur... Il y a 4 lignes de poser sur la table. Peut-être avec 5 ou 6 lignes, le jeu, il bougerait moins, mais ça serait peut-être un peu plus chiant, parce que du coup, ça serait trop prévisible.
Tu vois, peut-être après, qu'on était aussi trop... À un moment, je me suis dit, on était peut-être trop à vouloir prendre ce qui était sur le plateau, alors qu'on a quand même la possibilité de piocher, et ça, on l'a peut-être pas fait tant que ça. Je sais pas si dans d'autres parties, avec d'autres joueurs, les gens auraient plus tendance peut-être à piocher, et à se dire, bah, sur le plateau, ça me convient pas forcément. Si je pioche, j'ai peut-être... voilà.
Moi, j'avoue, par moment,
c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup pioché.
Moi, j'avoue que j'ai oublié que vous pouvez piocher, et du coup, bah, j'étais en train de me dire ah, bah, cette ligne-là, j'en veux pas, celle-là, j'en veux pas, celle-là, j'en veux pas.
C'est qu'il faut vraiment et j'avais oublié pour que ça soit intéressant, qu'il faut jouer vraiment avec toutes les règles.
J'avais oublié ce côté-là.
Après, moi, j'ai surtout joué à 3 ou 4 joueurs, c'est vrai que là, c'est une de mes premières parties à 5. C'est forcément plus chaotique, en fait, à 5. Parce que ça change beaucoup plus, et donc on peut beaucoup moins anticiper ce qu'on va.
Il y a plus de hasard.
Mm-hmm. Le hasard est plus fort.
Donc ouais, effectivement, enfin, moi je vais revenir, franchement je pense que c'est à 5 en tout cas, il n'y a aucune stratégie possible, on doit tout faire, quand on ne peut pas calculer avant que notre tour arrive, c'est vraiment à notre tour qu'on peut commencer à réfléchir potentiellement une stratégie. Donc déjà, comme on ne peut pas réfléchir avant, on met du temps à jouer, donc le jeu n'est pas trop dynamique, donc c'est encore un défaut du jeu. Il n'empêche que j'ai passé un bon moment, mais c'est plus... avec ce qu'on arrive maintenant à l'ambiance autour de la table. 4 personnes à se connaître. Sébastien qu'on connaissait pas, mais bon, qui s'est quand même bien greffé.
Moi, je pense, c'est vrai, toi, j'ai m'intégrer.
Tout à fait, tu t'es bien intégré. Et on a bien discuté entre nous autour du jeu, même de choses qui n'avaient pas rapport au jeu. Et l'ambiance était très bonne. Mais pour moi, c'est pas le jeu qui a mis l'ambiance, ce sont les joueurs qui ont mis l'ambiance autour du jeu.
Bah, en général, c'est souvent ça.
Oui, c'est sur les joueurs. Là, oui.
C'est rare qu'un jeu mette de l'ambiance. C'est souvent l'ambiance que nous, on met à peu près.
C'est le plaisir à jouer au jeu en question qui fait que... Voilà.
Je suis d'accord, mais il y a quand même des jeux qui mettent plus facilement l'ambiance que d'autres. Et là,
je suis d'accord, mais c'est pas un jeu d'ambiance.
Non, c'est un jeu familial.
Voilà.
D'accord, mais voilà, c'est pas un jeu d'ambiance, c'est un jeu familial. Et...
Il est classé dans collection et stratégie.
Voilà, c'est pas un jeu que t'achètes pour mettre de l'ambiance en fait. Donc, tu peux pas lui demander de mettre de l'ambiance au jeu.
Non, mais c'est pour ça que j'ai bien aimé le jeu. C'est parce qu'il y avait une bonne ambiance entre nous. S'il y avait pas eu une bonne ambiance, je me serais, je pense, ennuyé à ce jeu.
Ah, mais de toute façon, quel que soit le jeu, s'il y a pas d'ambiance, tu t'emmerdes. Hein.
Ça dépend. Ça peut dépendre. Mais là, franchement. Là, comme j'arrivais pas à élaborer de stratégie, tout ce que j'ai essayé de faire. Ça marchait pas. J'avais l'impression de...
Ça revient.
J'avais vraiment l'impression de subir le jeu comme à Seven Wonders. C'est pareil à Seven Wonders. Tu essayes de faire une stratégie, puis après, t'as ton jeu qui change.
Non, je suis pas d'accord. Seven Wonders, tu peux faire une stratégie.
Ah non, il n'y a aucune stratégie.
Ah,
c'est aussi pourri que Seven Wonders. Je suis
désolé.
Nous ferons donc un podcast sur le Seven Wonders.
C'est un jeu de tir au hasard. On ne peut pas savoir à l'avance.
Ouais, c'est les couleurs. Mais honnêtement, Seven Wonders, pour moi, tu peux faire de la stratégie.
Justement, en fonction de comment au départ, effectivement, dans les premiers trucs, tu
en fait,
peux pas...
que ta stratégie s'abonne au premier tour, sinon c'est mort.
Non, voilà, où tu peux laisser le premier tour et puis tu te dis, j'y vais là-dessus. Et effectivement, il y a quand même une part de chance, mais après, la stratégie, quand même, dans l'ensemble, tu arrives à la suivre ou pas, mais...
Mais t'as forcément de la
tactique que stratégie.
Mais t'as forcément de la stratégie, c'est vraiment d'art.
Oui, voilà, c'est plus le côté tactique, oui, je suis d'accord, que complètement stratégie de... Oui,
t'as pas... À chaque tour,
c'est l'opportunité, oui.
Tu essaies d'optimiser ce que tu veux faire.
Oui, c'est de l'optimisation de ce que tu peux faire. Donc pour moi, c'est ouais, tu c'est subis le jeu, voilà. C'est...
Ouais, pour moi, c'est pas...
Donc c'est un jeu qui te fait croire que t'es intelligent, alors qu'en fait, il n'y a aucune stratégie du tout.
Mais quoi, c'est comme dans le sport, hein.
C'est comme Candy Crush,
on te
c'est
donne une passe sport. Pour aller marquer un but, bah, ouais. Tu vas optimiser cette passe, même si elle n'est pas parfaite, et il y a des bons joueurs, et il y a ceux qui vont réussir à marquer ou pas. Hein.
Ouais. Bon, vous ne me ferez pas croire... Enfin, si vous avez, vous avez le droit d'avoir aimé le jeu, moi, je trouve que c'est pas un jeu qui... Enfin, voilà. Donc, continuons sur l'ambiance autour de la table.
Moi, le côté ambiance, c'est le côté effectivement discussion. Il y a un côté agréable avec les joueurs et qu'il y a. Et le côté agréable du jeu qui donne une ambiance, c'est que par contre, moi, je trouve l'illustration du jeu très agréable à voir, à l'œil. Et ça, il y a un jeu de couleurs qui est très agréable. Mmh. Et ça, ça aide aussi pour l'ambiance. Donc, parce que du coup, il y a plusieurs espèces d'oiseaux. Et les couleurs avec des fonds bleus, des jeux de couleurs.
Ouais, moi j'aime bien ce côté ludique des cartes.
Et ça, c'est agréable, je trouve ça très agréable. Donc ça fait un côté ensoleillé pour le sens de l'œil. C'est vrai que ça, c'est pas sombre comme jeu. Donc même pour côté familial, pour jouer avec des enfants, c'est très agréable. Voilà.
Ça aide, c'est vrai que ça aide, l'illustration aide beaucoup pour jouer en famille en fait. Mmh. Avec des enfants ça marche.
Toi t'as déjà joué avec tes enfants?
Non pas celui-là mais je l'ai animé plusieurs fois, je l'ai expliqué plusieurs fois notamment aux Utopiales et il y avait beaucoup de familles et les enfants accrochaient beaucoup.
Ouais.
Parce que la mécanique est simple, ils ont... Et puis les couleurs, c'est attractif. En
fait. Alors avant que tu parles, Marussia, on va juste expliquer les illustrations. Pour ceux qui connaissent Minecraft, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce sont des... Là, je vois l'oiseau sur la... Comment ça s'appelle? La boîte. Il y a 1, 2, 3, 4 gros cubes. C'est un rouge-gorge. Et 4 gros cubes. Et puis, il y a 2 autres polygones, grosso modo, qui font son corps. Plus les pattes. Enfin, c'est vraiment du Minecraft. Voilà, et toutes les cartes sont illustrées en type Minecraft.
C'est ce que j'allais dire en fait.
Excuse-moi, non, aussi.
C'est pas grave, ouais. On se coupe pas la parole.
Et non, tout à fait. Quelque chose d'autre à rajouter sur l'ambiance autour de la table? Non, donc on va passer tout de suite aux acheteurs potentiels. Qui est susceptible d'acheter ce jeu?
Famille.
C'est du jeu familial.
Familial.
Et pourquoi ce jeu plus qu'un autre? Pourquoi ce jeu familial plus qu'un autre jeu familial? C'est ça
parce
ma question.
Parce qu'il est simple.
Il est simple.
Il est simple. Les enfants, ils peuvent le capter super vite.
Comme les autres jeux familiaux.
Ça dépend lesquels. Après, il y a des jeux familiaux.
Là, c'est un jeu. Hein, il n'y a pas besoin de compter quoi que ce soit.
Il n'y a pas besoin de connaître les chiffres. Il n'y a pas besoin de connaître les lettres.
Il
n'y a pas
besoin de savoir combien pour faire l'envolée. Mais tu vas juste dénombrer. Tu n'as pas besoin de réfléchir à. Tu
n'as pas de calcul à faire. Tu n'as
pas de calcul.
T'as
voilà.
Les enfants...
T'as beaucoup moins besoin d'anticiper.
Oui, 7 ans, ils peuvent jouer.
Et s'il n'y a pas de rapidité, les enfants peuvent prendre le temps de regarder. Enfin, là, on peut respecter le rythme de chacun.
J'ai l'impression que je suis le seul à trouver ce jeu, mais complètement en dessous de la moyenne des autres jeux.
Moi, je me vois bien l'acheter honnêtement pour mes enfants, ou même pour offrir à quelqu'un justement qui a des enfants ou quoi. Je trouve que c'est sympa justement comme jeu.
Ah oui, c'est un jeu sympa pour les enfants.
À introduire dans un foyer, tu vois, en cadeau d'anniversaire, genre pour les copains de Florian ou quoi, ouais, clairement... Ça,
moi
chouette,
aussi, je pense que je l'achèterais pour offrir.
Ouais, je trouve ça chouette.
Moi, je préfère largement un saboteur,
chose. Je trouve que c'est un truc que... Enfin, il n'y a pas grand monde, justement, qui le connaisse et tout. Donc, du coup, tu vois, ça fait un cadeau qui peut plaire, puisque...
Les enfants, s'ils savent... ils savent dénombrer, ils peuvent jouer.
Oui.
Enfin, il faut savoir lire les chiffres.
C'est
faut
marqué 8
ans. C'est
marqué
8
ans,
d'accord.
Mais je pense que tu as 6-7 ans. Si ton enfant est bien éveillé, il peut y jouer.
À 5 ans, mon petit peut jouer là.
Voilà. Moi, ma fille, elle sait dénombrer, elle sait lire les chiffres. Donc je pense qu'elle serait pas loin de pouvoir y jouer avec un peu de concentration.
Mais t'as envie que ta fille commence sa culture ludique avec Q-Birds?
Bah, pour ça passe, il n'y a pas en fait des oiseaux en même temps.
Bah, et justement, il y a un oiseau, on sait toujours pas ce que c'est.
Bah,
il a surnommé le Napolitain.
Mais.
Bah écoute, sinon t'as le choix.
Après, j'ai pas forcément d'autres jeux familiaux en tête, mais celui-là, je le trouve simple.
Ouais.
Peut-être plus simple que les autres.
Et bah ouais.
Mais la simplicité, des fois, bah, c'est la base d'autre chose, tu vois.
Alors, chose marrante à ce sujet-là, c'est effectivement, c'est un jeu familial. Moi, je connais beaucoup de gros joueurs, de gens qui vont passer 6-8 heures à un jeu, ça les gêne pas. Et c'est un jeu qui tombe pas mal entre nous. Entre nous, on le sort entre deux gros jeux quand il y a une période de temps mort. Et voilà, mais après on le prend pour ce qu'il est, quand on le joue en moins d'une demi-heure, et puis c'est...
Oui, ça reste assez rapide.
Et voilà, bon, après pour vous donner, c'est le genre de... Enfin, nous on joue à ça, ou alors des jeux de genre, je sais pas si vous connaissez The Game, ou...
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le même genre
The Game, c'est pour que les enfants ils sachent compter.
Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué.
Voilà, celui-là, il est beaucoup plus simple parce que The Game, il faut savoir que vraiment 98 est plus fort que 3.
Non, puis il faut anticiper.
Il faut
parce
anticiper
que...
un peu plus. Ah, c'est celui-là, possible. Il est beaucoup. Il est simple. En fait, c'est pour ça qu'il est simple. Donc, je pense qu'il peut convenir aussi à des enfants en bas âge. Alors que t'as beaucoup de jeux familiaux, c'est 8-10 ans. Celui-là, je pense qu'il peut aller justement pour des enfants plus petits. C'est la différence en fait. Il est peut-être trop simple.
Tu peux mettre toute une famille autour.
Tu peux le mettre à des enfants plus petits que des jeux familiaux à 8-10 ans. Bah, à 8-10 ans, oui, mais si ton enfant il a 5-6 ans, bah, ça passe.
Et ben donc, la transition est toute trouvée. Et est-ce que vous connaissez des jeux qui sont similaires à Q-Birds?
Alors moi déjà en jeu de collection, j'en connais pas beaucoup. Le principe de faire des collections, des choses comme ça, il y a des jeux de plis, mais là c'est pas vraiment un jeu de plis là.
Moi en mécanique similaire, enfin, en collection on va dire déjà il y a Bonanza qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est aussi un gros jeu de chance a posteriori pour moi.
Jeu de négociation.
De négociation, mais il faut faire des collections, il faut trouver ses haricots. Et donc pour moi, mais Bonanza, je crois que c'est à partir de plus âgé. Tu l'as en plus ici, c'est à partir de quel âge ?
12 ans et plus.
De 12 ans et plus, il faut être un petit peu plus âgé, effectivement, pour jouer.
Il faut anticiper. En
fait. Voilà. Et pour ce truc de, comment ça s'appelle, de ne pas pouvoir prévoir à l'avance et de pouvoir jouer que à son tour, bah je pense à Seven Wonders ou à Carcassonne, notamment, où on ne peut rien prévoir à l'avance.
T'as le Splendor aussi, quand tu joues à 4, tu peux pas forcément prévoir ton coup en avance parce que ça bouge beaucoup aussi sur le plateau. Mais après, c'est pas la même mécanique de jeu, le Splendor. Je sais pas si tu connais.
Non, j'ai jamais joué à Splendor.
Mais c'est dans le même. Enfin, ça ressemble sans ressembler en fait.
Oui, c'est épuré. Il y a quelques mécaniques.
Splendor est un jeu très épuré et ça aussi, c'est un jeu.
Tu prends des pions pour acheter des cartes. Là, tu prends pas des pions, tu prends des cartes pour acheter des oiseaux. Là, tu prends des pions pour acheter des cartes. Enfin, voilà, c'est différent, mais. C'est différent, mais c'est pas différent à la fois. Enfin, c'est, voilà.
Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter ? Oh, le gros blanc. Alors, moi, j'ai noté mes deux petites blagues que je vais devoir vous ressortir parce que je ne peux pas m'empêcher de vous les ressortir. Quand on joue, on doit poser une carte. Ça, c'est l'action obligatoire. On a une action qui n'est pas obligatoire, qui est le fait de s'envoler. C'est comme ça qu'on va marquer des points.
De faire une envolée.
Voilà.
Une envolée.
Et j'en avais tellement marre que... Enfin, Flavien, à chaque fois qu'il jouait, il faisait ce coup optionnel, il faisait son envol. Donc, je lui ai dit qu'il avait dû prendre du Red Bull avant de venir, parce qu'à chaque fois, il faisait son envol. Voilà, c'était ma première blagounette. Et la deuxième, c'était en rapport au graphisme. Je disais que, oui, comme je disais, c'était du Minecraft, hein, où on taille des gros morceaux de briques pour dessiner les oiseaux. Donc, je disais, les oiseaux sont plutôt mal dessinés. Donc, si on avait besoin d'une pie, si c'était pas un problème, il suffisait de prendre un bout de bois et de se tailler une pie. Pour la faire, et voilà.
Elle sera peut-être que pas au montage.
T'as sorti celle-là après ton canard, quand même.
Je l'ai sorti après ton canard, et oui, c'était quoi ton canard
C'était, alors cette blague qui vient de Facebook, hein, donc faut pas relever le niveau. C'était, que fait un canard quand il a soif? Et la réponse, c'est, il boit une canette. Voilà. Mais c'est via Facebook, hein.
Prend une canette, peut-être.
Il faut toujours assumer.
Il prend une canette, oui, enfin, peu importe.
Il faut toujours assumer.
Mais ça vient de Facebook, il faudrait que je retrouve le statut, mais...
C'est une blague carambar.
Une blague carambar, certainement, qui est ressortie sur Facebook.
Ouais.
Voilà.
Eh bien, très bien, on va pouvoir arriver à la conclusion sur ces bonnes blagues. Donc, mon mail, il est dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fera plaisir, un petit retour sur mon émission. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur le mini-site. Donc c'était Commentaire d'après-jeu. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de jouer, d'analyser et de critiquer vos jeux et vos stratégies de jeu. Votre plaisir ludique n'en sera que décuplé.
Ah, le générique.
Pas le générique.
Là, tu peux. C'est ça, le générique, en fait.
Ça y est, on peut se gonfler de MLM. De Kélus ?
Ouais,
non. Non. T'as jamais joué, non. Si, j'ai déjà joué à Kélus.
Là, pour le coup, c'est
déjà dû jouer.
Alors, c'est du jeu de comptable bien calculatoire, bien prédictif.
Alors,
moi, j'aime pas quand c'est trop calculé à l'avance.
Moi, ce que j'aime pas, c'est tous les jeux, en fait, où autour du plateau, t'as la piste de score. Et ça, je...
C'est 99% des jeux auxquels je joue.
Donc... Et donc,
c'est juste pour ça que t'aimes pas les aventuriers du rail, quoi.
Il y a pas en fait, que pour ça que j'aime pas les aventuriers du rail.
Mais c'est bien aussi d'avoir des personnes qui sont pas en accord avec toi, parce que justement,
oui, voilà.
Toi, quand on fait le podcast, on peut échanger.
Oui. Non, parce que là, a priori, t'aimes bien les jeux où tu peux développer une stratégie où il n'y a, pas de chaos.
Après, il y a stratégie et stratégie, tu vois.
Préféré, c'est quand tu dois récolter des ressources et éventuellement faire la guerre aux autres pour gagner.
Christelle, 39 ans, joueuse de façon agréable aussi, on va dire.
Régulière ou
un peu régulière. J'ai fait les podcasts du Uno, du Shabada Bada, du Petit Meurtre et Fait Divers. Et je ne sais plus, quelques-uns des podcasts.
C'est pour ça qu'il faut noter avant de faire ta présentation.
Regarde-moi. Non, c'est un essai, on a dit.
C'est pour voir si les voix sont assez...
Continue.
Si on entend bien de voir.
Continue, Christelle.
Oui, après, je ne sais plus.
Tes cheveux.
Ah, mes cheveux sont longs jusqu'aux fesses.
On n'est pas obligé de mentir.
Maroussia, à toi. Alors, Maroussia, alias Bilouette. J'ai...
Quel âge, attends. Ça y est,
nous fait
ça.
Il faut le noter. Tu as 29 ans, Maroussia.
J'ai 29 ans. Eh, moi, pour moi, je le note. Donc, Maroussia, alias Bilouette, j'ai 29 ans. Je joue très régulièrement. J'ai déjà fait plusieurs podcasts, mais vous dire lesquels, je ne sais plus. Le dernier, j'ai fait. Le dernier, c'est sûr.
Non. Maroussia. Tu le notes, s'il te plaît. Tu le notes, s'il te plaît, parce que sinon ça va pas être possible.
Je sais que j'ai fait le dernier, c'est sûr. Bon, je sais plus si c'était toi le jeu.
On était tous les trois là, quoi.
Mais j'ai fait le dernier, mais je me rappelle plus du jeu.
Bah, tu me. Dans ces cas-là.
Non, c'était pas ça.
C'est pour ça qu'on fait. Tu poses la question, je te réponds et tu le notes avant, parce que sinon c'est pas possible.
Ah voilà, j'ai fait le déclic et j'ai les cheveux mi-longs. Bruns.
Voilà.